Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Salut, vous êtes sur Cause Commune 93.fm. Après, parlons pas boulot, parlons vélo avec Rayon Libre. Il est 14h, lundi 11 mars 2024. Nous sommes en direct, bienvenue, jetons un froid avec nos vélos. Mais avant, si tu es dans ta voiture, salut à toi, tu es sur 93.fm, salut et surtout bon courage. Si tu es au bureau, casque sur les oreilles, salut à toi, tu nous écoutes peut-être en streaming depuis le site cause-commune.fm ou via l'appli dispo sur Android et iOS. Et si tu nous écoutes en podcast, tu es peut-être sur ton home trainer. Alors pédale et transpire, on va tenter de te faire oublier les watts, les douleurs dans les cuisses, les mollets et les fesses aussi. 30 minutes, ça passe vite, 30 minutes. Merci à Olivier Gréco, directeur de l'antenne Cause Commune, que vous pouvez écouter le samedi à midi sous les lapsus de l'info. Merci à Abel Guggenheim, toujours content de te retrouver Abel. Merci à vous auditeurs et auditrices pour votre fidélité tout simplement. Punaise, vous m'avez manqué. Il y a 2 semaines, le micro de Rayon Libre fut confié à Anaïs, Sybille, Eva et Mauve. On leur a donné notre micro parce que ça nous semblait sensé. Une émission qui parle de vélo au féminin avec un mec qui pose les questions, un homme qui pose une chronique. On s'est dit naturellement, bah non, bousculons-nous, accompagnons-les, qu'elles prennent la parole entre elles, pour nous tous, pour nous toutes, nous, juste là en régie. La semaine dernière, un Rayon Libre inédit, mais enregistré. Ça fait donc 2 semaines que je ne suis pas installé au micro de ce studio de Cause Commune. Et oui, ça m'a manqué. L'occasion aussi de me rendre compte que j'y suis accro à ce micro. J'aime donner la parole aux autres, être là, tenter de poser les questions que vous, auditeurs, auditrices et auditrices, pardon, aimeriez entendre, trouver les invités qui vont m'apprendre quelque chose, en me disant humblement, s'ils m'apprennent quelque chose, ils vous apprendront aussi peut-être quelque chose. Alors, accro, comme une addiction. Quand on regarde la définition de l'addiction, c'est une pathologie. Au-delà de l'addiction au jeu, l'alcool, la drogue, une addiction est définie comme une pratique anormalement excessive d'un comportement qui conduit à une perte de contrôle, une perte du niveau de consommation pratique. Surtout une modification de l'équilibre émotionnel. L'addiction est toujours une pathologie, est toujours un excès qui mène à une perte. La bigorexie, par exemple, c'est une addiction au sport et à l'activité physique. Être amoureux, est-ce une addiction? Aimer son vélo, c'est quoi? L'anthropomorphisme, on aime son vélo ou on aime faire du vélo? Quelle frontière entre addiction et dépendance? À quel moment le besoin prend le pas sur l'envie? En ce qui me concerne, être à ce micro, c'est un désir, une envie, pas loin d'être un besoin. Et faire du vélo, du désir, un besoin, une envie. Et vous? Et mon invité d'aujourd'hui, pourquoi le vélo? Est-il addict au vélo? Ou est-il juste animé par du désir ou plutôt une vision ou même une passion? C'est déjà pas mal, une vision et une passion. Si ça se trouve, c'est au-delà pour Barthélémy Antoine Louf. Le vélo comme une conviction, une solution. Barthélémy Antoine Louf est un artiste plasticien. Il est aussi éleveur d'iceberg. On n'en croise pas souvent, pas assez des éleveurs d'iceberg. C'est une bonne situation, ça, éleveur d'iceberg. C'est une bonne question. Et quel rapport avec le vélo? Eh bien, patientez, on va découvrir cela ensemble. Bonjour Barthélémy Antoine Louf. Soyez le bienvenu au micro de Rayon Libre pour ce moment.
Bonjour Jérôme.
Mais alors, avant tout, Barthélémy, pour vous, le vélo, c'est quoi? C'est une conviction?
C'est une belle conviction.
Une passion aussi?
Et c'est une passion. Je pense que les deux se relient à un moment donné, de toute façon, parce qu'à partir du moment où on a une conviction, on est animé par quelque chose qui nous passionne.
Ouais. Et alors les anti-vélos, ils aiment bien railler les cyclistes, hein, ces bobos qui pensent sauver la planète avec leur vélo. Vous, Barthélémy Antoine Louf, le choix du vélo, c'est une conviction écologique aussi ou pas?
C'est une conviction écologique et c'est une conviction par rapport au temps aussi.
Ouais. Alors dans l'introduction, je vous présente comme un artiste plasticien, éleveur d'iceberg. Avant de vous poser la question, quel rapport avec le vélo? C'est quoi un éleveur d'iceberg?
C'est une profession qui est assez unique.
Ouais, on n'en rencontre pas assez.
Non, on n'en rencontre pas assez. D'ailleurs, il y en a pour le moment qu'un seul, à proprement parler.
À votre connaissance?
À ma connaissance. J'emmène à vélo un petit iceberg ou un petit glacier sous une cloche en verre chez des personnes qui en font la demande et je leur propose d'héberger donc une de mes œuvres qui représente ce petit glacier sous cette cloche en verre. Et ce faisant, les personnes deviennent éleveurs du glacier ou éleveurs d'iceberg à leur tour. Donc en fait, on est quand même une petite communauté.
Et bien alors, ça, pourquoi élever un iceberg?
L'idée derrière le projet, elle est née au moment du confinement, puisqu'il y avait à ce moment-là plus de lieux d'exposition qui étaient ouverts. Ouais. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai besoin de ces lieux d'expression pour pouvoir m'exprimer. Et on en a parlé avec le mécène qui m'accompagne, qui est le Maïf Social Club, en se disant, en fait, finalement, pourquoi ne pas proposer d'héberger une œuvre aux personnes qui en font la demande, puisque finalement, les personnes sont elles-mêmes privées d'aller dans des lieux. Ouais. Donc le projet, il est parti de cette idée-là, c'est-à-dire que moi, je n'avais plus de travail en tant qu'artiste, le Maïf Social Club devait fermer puisque le lieu d'exposition était fermé, et les gens n'avaient plus accès aux œuvres. Et puis, derrière ça, il y avait aussi cette idée de parler des glaciers, donc de la disparition des glaciers, du dérèglement climatique. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, est venue cette idée de proposer aux gens d'héberger pendant un temps un petit glacier et de passer le relais de maison en maison, alors en région parisienne et à Paris principalement. Et puis de l'élever pour les suivants. Donc en fait, finalement, c'était une question de remettre un petit peu de vivant à l'intérieur des maisons un petit peu autrement. Puisque
vous le considérez vivant, votre iceberg ?
Ah je le considère vivant et je pense que toutes les personnes qui l'ont reçu le considèrent comme étant vivant, tout à fait.
Ouais, ça devient une sorte de quoi ? Ça devient comme si on nous confiait un hamster, finalement, les voisins qui partent en vacances et qui disent « Ah, tu veux bien t'occuper de Boubou, le hamster ?»
Il y a un petit peu de ça, oui. Ouais. En tout cas, on crée un attachement. Alors, je ne dirais pas que c'est forcément un animal de compagnie, mais il y a cet attachement-là à quelque chose de vivant, puisqu'en fait, s'il n'est pas alimenté, s'il n'est pas... donc, il grandit, puisqu'il est nourri au moyen d'une petite goutte d'eau qui vient le nourrir régulièrement. Ouais. S'il n'est pas alimenté, il meurt.
Donc, il y a une sorte d'animisme là-dedans.
Il y a une sorte d'animisme. On peut ouais. considérer les choses un petit peu comme ça. Ouais.
Alors, on va revenir quand même au sujet du vélo. On parlera de... Moi, je suis fasciné par... Je suis ravi de recevoir un éleveur d'iceberg à ce micro. Pourquoi le vélo ? Enfin, qu'est-ce que le vélo vient faire là-dedans ? Je sais que vous livrez votre iceberg à vélo, mais finalement, le vélo, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un objet de livraison pour vous.
Le vélo, c'était une façon de rendre l'exposition à taille humaine, c'est-à-dire la rendre disponible pour des gens qui étaient à Paris, donc la géolocaliser de manière très, très fortement à Paris, région parisienne, et de pouvoir se déplacer facilement et rapidement avec cet iceberg-là.
Et donc, ça veut dire quand vous réfléchissez à votre iceberg, c'est un petit iceberg, que vous réfléchissez en vous disant j'ai besoin de le transporter à vélo parce que à pied non, et en voiture non plus, et en transport en commun non plus. Donc, vous réfléchissez déjà dès le départ sur les contraintes posées par un transport à vélo ?
Alors oui, pas tout à fait, puisqu'en fait c'est une œuvre qui était destinée à être exposée dans un lieu d'exposition, donc elle n'avait pas tout à fait la même dimension. J'en ai recréé une nouvelle version pour que je puisse l'emmener à vélo effectivement à ce moment-là. Donc je l'ai rendue plus petite et plus transportable. Ouais. Et puis au-delà de cette question de la géolocalisation du vélo et de pouvoir se déplacer facilement, il y avait aussi tout le propos de dire je transporte une œuvre d'art, non pas en voiture qui donc pollue, un coût CO2 plus élevé que celui du vélo, mais bien en vélo, puisque je parle d'écologie, j'ai envie d'être sur une forme de cohérence par rapport à mon propos.
Et alors justement, quand on parle de cohérence, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, quand vous vous déplacez pour aller à Venise ou à Riga depuis Paris, pour aller assister à une biennale ou pour aller faire des conférences, vous le faites à vélo, hein, c'est ça ?
La plupart du temps, oui. Et en tout cas, j'essaye de remplacer l'avion par le vélo.
Vous pourriez prendre le train ?
Je pourrais prendre le train, et d'ailleurs de temps en temps je mélange train et vélo quand je sens que le timing ne le fait pas. Mais il y a aussi, en fait moi je me positionne du point de vue du sensible et de l'artiste, qui est celui qui raconte des histoires. Ouais. Donc pour moi, raconter que je vais à l'autre bout de la Terre, ou en tout cas à l'autre bout de l'Europe, à vélo pour assister à une biennale, donc là en l'occurrence c'était la Mostra de Venise par exemple, ça me permet de raconter à la fois ce cheminement-là, c'est-à-dire traverser la montagne à la force des jambes.
Oui, Paris via les Alpes. Exactement. Pour atterrir à Venise.
Donc parler de l'énergie, l'énergie du corps qu'on dépense versus l'énergie qu'un avion ou un train dépense mais qu'on ne sent pas. Donc il y a quand même quelque chose d'assez remarquable là-dedans par rapport à l'effet que ça produit sur le corps humain. Et puis il y a toute cette logique d'arriver à Venise et de dire je suis venu en vélo et de confronter finalement des festivaliers ou même une organisation d'un festival par rapport au fait que je sois venu à vélo et que quand on arrive pour récupérer son accréditation à la Mostra de Venise, il faut remplir un bilan carbone. Ouais. Sauf que dans le bilan carbone à choix multiples, il y a l'avion, il y a le train, il y a le bus, il y a la voiture, il n'y a pas le vélo.
Et donc,
moi, ça me permet de leur dire, et je suis
mettre le doigt dessus.
Il y a un problème. Vous me demandez un bilan carbone, il n'y a pas une seule des réponses qui soit le plus neutre en carbone.
Ouais.
Donc, pour la petite blague, je suis devenu citoyen vénétien provisoire pour que mon bilan carbone colle avec la réalité du fait que je sois arrivé en vélo.
Donc ouais, vous avez dit mon bilan carbone est quasi neutre parce que je suis un local de l'étape.
Tout à fait.
C'était la seule solution. Et est-ce qu'il y a une réflexion qui remonte un peu plus haut, où vous le sentez, ou finalement vous êtes une sorte d'épine dans le pied, on ne sait pas trop comment gérer, il faut trouver une solution, mais la biennale suivante, ils n'auront pas intégré le vélo dans leur bilan carbone.
Je ne sais pas s'ils vont intégrer le vélo dans leur bilan carbone. En tout cas, ça a provoqué des réactions auprès de l'organisation de la Mostra, qui m'a évidemment répondu de plusieurs manières différentes. La première était de dire vous comprendrez que la plupart des gens viennent en avion, donc on ne va pas se permettre de mettre le vélo. Et il y en a d'autres qui trouvent que c'était un geste assez engagé, finalement, et que ça valait peut-être le coup d'y réfléchir. Est-ce que ça va changer pour la prochaine Mostra? J'en sais rien.
Ouais.
Quoi qu'il en soit, moi j'ai un projet qui est porté par la Mostra, donc je vais y retourner, et c'est probable que j'y retourne en vélo, donc je verrai l'effet que ça aura produit peut-être à ce moment-là.
Ouais. Ce qui est intéressant quand je lis un peu, pour préparer cette émission, notamment un des articles, et c'est un peu tout ça, vous faites ce que vous dites, on va revenir un peu sur l'iceberg et la notion de banquise et de glace, c'est que vous faites un parallèle sur une exposition qui est hyper localisée, où on parle de banquise et de glace qui se forment sur des milliers d'années, et que ça vous a amené à repenser en profondeur votre rapport au temps et à l'espace. Est-ce que selon vous, cette relation que vous avez avec la glace et la banquise, on pourrait penser que c'est la même chose, repenser son rapport au temps et à l'espace quand on est sur un vélo, ou quand on choisit le vélo?
Pour moi, c'est même une évidence.
Ouais.
C'est que les deux sont fortement liés. Le temps des glaciers est un temps géologique, donc qui est extrêmement lent et extrêmement long. Le temps du vélo n'est pas un temps géologique, puisque évidemment, on ne se situe pas à la même échelle, mais on est sur un temps long.
Ouais.
Et j'aime dire que j'essaye d'adopter le temps du glacier.
Ouais.
Qui est cette temporalité très particulière où tout se déroule effectivement avec une extrême lenteur. Ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, les glaciers disparaissent à vitesse grand V.
Oui.
Donc, ils sont à l'image de notre société aussi. Peut-être.
Peut-être.
Non, mais oui, c'est une bonne analogie, puisque finalement, les glaciers, en disparaissant très très vite, sont à l'image de notre société, c'est-à-dire une société trop rapide, ou peut-être par rapport au climat tel qu'on le connaît, ou tel qu'on le souhaiterait, stable aujourd'hui. Donc il y a effectivement cette question-là, elle est pour moi, elle se rejoint. J'avais pas forcément mis le doigt dessus immédiatement, mais petit à petit, les deux choses se sont jointes de manière très organique.
Et alors encore une fois, quand vous partez à la Mostra de Venise ou à Riga, vous êtes à vélo, vous mettez à profit ce temps pour faire quoi quand vous êtes sur votre vélo? Pour réfléchir, pour réfléchir, pour poser, pour avoir l'idée de votre prochaine œuvre d'art? À quoi il sert ce temps que vous prenez?
Il sert, alors la plupart du temps, quand je roule plutôt en montagne, alors pas pour quand je vais à Riga, parce qu'il n'y a pas de montagne sur la route, et du coup ça me permet d'aller voir l'état des glaciers d'une année sur l'autre, qui n'est pas forcément très positif ou très réjouissant, et quand sur ces temps longs, ça me permet effectivement de réfléchir beaucoup autour de nouvelles créations. Potentiel, puisque c'est le moment où je n'ai pas grand chose d'autre à faire que de laisser vagabonder mon esprit.
Ouais.
Et ce qui est un temps qui est extrêmement précieux pour un artiste. Les temps de création et les temps de résidence, par exemple, ce sont des temps où on est un peu coupé du monde, finalement, où on peut se permettre de produire ou de créer ou d'essayer ou d'écrire avec toute notre sensibilité. Il faut un temps d'adaptation pour pouvoir se plonger dans cette espèce de moment de création. Et ben, le vélo, pour moi, me permet d'atteindre finalement, en quelque sorte, ces moments-là. Alors, pas tout de suite, puisque c'est pareil, il me faut un temps pour y plonger.
Ouais.
Et puis petit à petit, je laisse aller les idées.
Alors on va revenir, on est déjà à la mi-temps de Rayon Libre, il est 14h14, c'est l'heure de l'agenda pour l'instant. Donc l'agenda, quoi faire, que voir, que lire, où pédaler cette semaine? On est toujours avec Barthélémy Antoine Louf, qui est un artiste plasticien, un éleveur d'iceberg, et il fait tout ça à vélo. Alors à lire un roman graphique publié chez Dargaud, Copenhague, de Anne-Caroline Pandolfo qui est fait au scénario et Terkel Risberg qui a fait les dessins et les couleurs, parce que Copenhague, quoi, c'est l'autre capitale du vélo. Ce soir à 19h30, théâtre Victor Hugo de Bagneux, tout à fait. Projection de deux films, Le Vélo, un instrument d'émancipation pour les femmes. La participation aux frais est de 3 à 5 euros. C'est assez raisonnable. Les infos sont sur le site de cause-commune. Et si ce n'est toujours pas fait, il reste encore quelques jours pour aller rendre visite à Eva et Consoeur pour leur expo à la mairie du 7e, Femmes à vélo. Et pour voir l'iceberg de Barthélémy, eh bien, il vous le dira après la musique. L'extrait de la musique, c'est un extrait de la bande originale d'Euphoria, I Fucking Did It, Labyrinthe. On se retrouve dans même pas 3 minutes.
Yeah, I fucking did it, yeah, I fucking said it, yeah, I meant it, yeah, I'm here to kill it, came in for the money, yeah, there's plenty, popping like we corn, yeah, the pot is cooking, we still hungry, I could eat a horse, tell that bitch a rider like a stallion, and we coming for that bread, you could do the tally, yeah, I look like Sammy Davis Jr., but I'm still the Frankie, yeah. Keep them cameras rolling when I roll up in the Lamy, cause I fucking did it, yeah, I fucking said it, understand me, wish we sling a couple shots with that 40 Maggie, tell them fucking cowboys it's a hootenanny, baby, there we singing from New York to the west of Cali, cause I fucking did it, yeah, I fucking said it, understand me, high on that money flow, ride like that Calito, fly in that tuxedo, find me in Monaco, high on that Mexico, Cuba and Henigo, hey, with my shitty Rolf, hey, getting hot and cold.
Praise the Lord.
Cause I fucking did it, yeah, I fucking said it, understand me. Did it, yeah, I fucking said it, understand me. Understand me. Understand me. Understand me, cause I fucking did it, yeah, I fucking said it, understand me.
Praise the Lord.
Cause I fucking did it, yeah, I fucking said it, understand me.
Il est 14h17, 93.fm, Rayon Libre, Cause Commune. Voilà, vous êtes là pour la deuxième partie de cette émission avec Barthélémy Antoine Louf. Barthélémy, il est artiste plasticien, éleveur d'iceberg et livreur d'iceberg à vélo aussi, hein, c'est ça, hein?
C'est ça.
Revenons là-dessus. Alors, vous m'avez glissé juste avant, je savais pas, mais vous avez un mécène qui s'appelle le Maïf Social Club. D'habitude, vous exposez là-bas, c'est ça?
Alors, oui et non. En tant que plasticien, j'expose dans différents lieux culturels, que ce soit en France ou en Europe. J'ai cité le Maïf Social Club puisqu'en fait, eux me soutiennent dans cette démarche. Parce que maintenant, ça fait un peu plus de deux ans que j'emmène ce glacier de maison en maison et maintenant d'école en école aussi, puisque les écoles ont rouvert, donc finalement les écoles peuvent recevoir ce glacier là et donc c'est le Maïf Social Club qui m'accompagne là-dedans.
D'accord. Tout à fait. Parce que vous avez besoin de manger et de c'est pour donc qui vous accompagne dans une démarche artistique.
Oui, alors c'est plus que ça, parce que oui, effectivement, alors déjà oui, parce que j'ai besoin de manger, et puis de toute façon dès le départ il était inscrit et dit que je ne voulais pas que les gens payent pour recevoir le glacier, puisque c'était vraiment pas l'idée. Et puis au-delà de ça, ils font un boulot assez incroyable d'accompagnement, puisque ils m'aident à trouver les personnes qui vont recevoir le glacier, ils m'aident à créer le parcours, ils sont en relation avec les écoles également pour que tout ça se passe bien.
Alors justement, parlons-en. Si jamais on a un auditeur ou une auditrice ou un recteur d'école un proviseur qui a envie de recevoir ce glacier, comment ça se passe, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on doit faire, comment on nourrit cette bête?
Alors, on nourrit pas cette bête en tant que telle, puisque c'est un système qui est qui est mécanisé.
Oui.
Donc c'est un petit goutte à goutte, il est sous perfusion finalement, il grandit à raison d'une goutte d'eau toutes les heures,
oui.
Donc, ce qui lui permet d'avoir un temps, de parler justement de ce temps extrêmement long que met la cryosphère pour pouvoir se créer et se stabiliser, et la vitesse à laquelle ça disparaît, puisqu'en fait, si on imagine que le glacier deviendra un glacier grandeur nature, échelle 1, il va falloir une infinité de gouttes ou un temps éternel pour pouvoir voir ce glacier justement grandir. Là où actuellement il est âgé de 13 000 et quelques gouttes d'eau, je crois,
oui.
Et il fait 5 cm d'eau. Donc on en est encore très très loin.
Mais alors on l'accueille comment?
On l'accueille en m'écrivant un petit message sur mon site internet ou sur mon Instagram, ou en contactant directement le My Social Club. Il y a un petit formulaire sur le site.
Et on s'engage pour combien de temps? On le garde une semaine, un mois?
On le garde en général, dans les écoles, on le garde un mois.
Oui.
Et chez les particuliers, on le garde entre une dizaine de jours et une quinzaine de jours.
D'accord. Et après, donc c'est vous qui le livrez, qui le retirez. Vous en profitez pour avoir un moment d'échange, un moment de réflexion, pour capter aussi ce que vous disent vos gardiens, en fait, les gardiens de votre iceberg.
Tout à fait. Et c'est même très important pour moi de faire cette démarche, d'aller au contact des gens, quels qu'ils soient, scolaires ou non scolaires, et de recueillir leurs témoignages et de comprendre comment est-ce qu'ils ont vécu avec le glacier. Ce qui est assez chouette dans cette aventure-là, c'est que la plupart du temps, le glacier que je dépose donc chez les gens, qui s'appelle Tipping Point, est une œuvre d'art. Mmh. Et petit à petit, cette œuvre d'art devient un objet vivant, et voire un membre à part entière de la famille auquel on peut donner un nom ou auquel on va prêter des sentiments, on va parler. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se créent autour du glacier. Et j'ai gardé des liens avec des personnes qui ont veillé sur ce glacier-là.
Et donc, justement, c'était la question suivante. Est-ce qu'il y a une sorte de communauté qui s'est créée autour de ce glacier, d'éleveurs d'iceberg?
Alors, il y a une communauté... Oui et non, dans le sens, c'est moi qui porte finalement cette communauté-là en amenant le glacier à droite, à gauche. Les gens se sont croisés une fois, puisque j'ai fait une espèce de petit événement pour pouvoir permettre aux gens qui ont élevé le glacier de se croiser. Mais après, non, le lien, il est plus personnel que ça, moins dans un aspect de communauté. Ce qui est quand même assez chouette, c'est que quand le glacier va dans des écoles, la dernière fois qu'il est allé dans une école, j'ai eu une série d'instructions que je devais passer à la personne suivante, qui était une série de petits mots, et il y avait un mot à ouvrir par jour, avec des instructions ou des idées, faire écouter un morceau de musique qui fait référence à de la glace auprès du glacier, lui raconter une histoire, l'écouter, attendre que cette fameuse goutte d'eau tombe, puisqu'on la voit monter dans un tube en verre, et c'est très très lent comme processus. Et donc la personne qui l'a reçue juste après a joué le jeu, et donc elle m'a raconté tout ce qui s'était passé par rapport à cet ensemble de petites fiches que l'école d'avant lui avait donné. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe et qui se transmet de personne en personne, au-delà de moi, ma parole ou de ce que je peux raconter, qui forcément déforme, puisque moi j'amène aussi un discours qui est à la fois scientifique, à la fois poétique, à la fois de ressenti et sensible. Il y a aussi, il se nourrit au fur et à mesure de toutes les personnes qui me donnent leur témoignage ou qui me raconte des choses, et parfois j'ai encore des messages de personnes qui l'ont eu il y a un an et demi et qui me demandent comment va le glacier, où est-ce qu'il est, quel âge il a, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il n'a pas souffert de la chaleur, comme ça a été le cas par exemple l'année dernière où j'ai dû le faire une opération à cœur ouvert, enfin donc je raconte en fait un petit peu tout ça aussi.
Et alors justement, enfin là puisqu'on est quand même au sein de Rayon Libre, une émission qui cause de vélo, est-ce que quand vous allez à la rencontre de ces personnes qui accueillent cet iceberg, évidemment, vous êtes à vélo. Évidemment, j'imagine qu'il y a une question aussi sur comment il est livré, comment il est reparti. Donc, il y a un moment donné, sans faire forcément de prosélytisme, mais une question sur et le vélo dans votre quotidien. Est-ce que il y a une sorte de prise de conscience aussi là-dessus? Vous portez un message là-dessus ou pas du tout?
Oui, bien sûr. Et puis le message, il est porté dès la phase de conception du parcours du vélo, puisque
du parcours à vélo.
À vélo, parce que j'ai pour limiter en fait le coût de l'énergie dépensée au moment où je déplace ce fameux glacier, puisqu'il est sur batterie, puisque il faut que je garde le système froid en route, j'ai limité les trajets à 20 minutes.
Ouais.
Donc en fait, cette logique géographique liée au vélo est déjà très fortement ancrée à cet endroit-là. Quand j'ai les gens, en fait, je leur dis, bah voilà, moi je peux pas venir jusqu'à chez vous parce qu'en fait, entre temps, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre sur le chemin parce que vous êtes à 40 minutes et qu'en fait, je n'ai que 20 minutes d'autonomie et je suis à vélo. Et donc il y a déjà ça qui est posé. Et puis après, il y a effectivement tout ce que ça raconte. C'est-à-dire que dans la logique, souvent on me fait la réflexion que si j'étais venu en voiture, il y aurait eu quelque chose de pas logique par rapport à la démarche. Donc en fait, sans que moi je le dise, c'est implicitement lié au projet. Et les gens font le lien par eux-mêmes de dire, bah ouais, en fait, c'est logique de venir en vélo, ce serait pas logique de venir en voiture.
Et vous avez l'impression que ça, je vous poserai la question pour après la chronique d'Abel qu'il faut que je lance, mais est-ce que vous sentez un changement de comportement? Mais je vous laisserai y répondre, vous avez toute la chronique d'Abel pour y réfléchir. Pour l'instant, c'est Abel Guggenheim. Est-ce qu'il est intéressé, lui, par un élevage d'iceberg? Eh bien, j'en sais rien. On lui demandera pour la prochaine fois. En attendant, il va nous évoquer le port du casque sur un vélo. Il y a les pour, il y a les contre. Et puis, Abel Guggenheim, là-dedans, qu'est-ce qu'il en dit? Abel, c'est à toi.
Bonjour. C'est un cri du cœur, le cri du cœur d'une cycliste, Monique, qui en a ras-le-bol qu'on s'étonne de plus en plus qu'elle ne porte pas de casque. Moi, tu sais, l'autre jour, si je n'avais pas eu mon casque, le fils d'un tel, le mois dernier, s'il n'avait pas eu son casque, aurait pu, etc., etc. Et elle énumère consciencieusement toutes les raisons qu'elle a de ne pas en porter. Je ne pense pas qu'elle cherche à convaincre les acharnés du casque. Elle n'y parviendrait d'ailleurs pas, tant cette conviction est enfoncée au plus profond de certains esprits. J'ai lu ce texte avec grand plaisir comme un résumé des raisons pour lesquelles je n'en ai jamais porté et que j'ai bien l'intention de ne jamais mieux être. Monique fait, à mon avis à juste titre, le rapprochement entre cette pression redoublée pour le port du casque et l'accès de divers engins plus ou moins motorisés à la dignité d'être appelé vélo et d'être autorisé à circuler sur les aménagements cyclables et donc à une confusion entre ces engins et les deux roues motorisées. Elle explique. C'est une vision de l'espace public comme lieu d'affrontement après les motocyclistes, les cyclistes en fourche armanture, comme ils partiraient au combat. Avaliser ainsi la violence de la circulation induit une surenchère. La rue est dangereuse, donc je l'aborde casquée. Comme je circule casquée, je fonce. De fait, il a été observé que les porteurs de casques, se sentant protégés, se conduiraient inconsciemment de façon plus téméraire dans la circulation. Ce phénomène, étudié et validé depuis des années, est dénommé homéostasie du risque. Une amélioration technique de la sécurité s'accompagne presque toujours d'une augmentation de la prise de risque. Il a été observé dans bien d'autres circonstances. Les personnes au volant de véhicules équipés d'airbags ou d'ABS roulent par exemple plus vite que les autres. Isabelle Le Sens, qui a publié ce texte sur son blog, l'a aussi signalé sur le réseau X. Comme on pouvait s'y attendre, déferlement de haine, avec revue, de tous les classiques arguments pro-casque. J'ai sans surprise retrouvé parmi les auteurs de ces réactions des anti-vélos primaires pris d'un certain intérêt suspect pour la santé des cyclistes. Ces réactions sont assez logiques. Si je suis opposé à la présence de vélos, je veux qu'au moins, s'ils ne sont pas interdits, on leur impose un maximum de contraintes. Monique enfonce le clou. Il est illogique de casquer les cyclistes sans casquer aussi les piétons et les automobilistes qui courent aussi le risque de graves atteintes au crâne, accidents de la circulation, chute ou production d'objets dans la rue pour cause de météo désormais parfois très violente. Plus généralement, si les aficionados du casque affirment à juste titre que porter un casque peut être une protection de la tête, ils oublient juste d'ajouter que c'est vrai aussi dans des tas d'autres situations comme celle-ci et qu'il n'y a pas plus de raison de porter un casque quand on est à vélo que quand on est à pied ou en voiture, mais aussi quand on monte sur un tabouret ou descend un escalier abrupt, etc. Le cri du cœur de Monique a été publié le 8 mars 2024 sur le blog isabellelevelo.fr. On mettra le lien sur le site de l'émission. À lundi prochain.
Alors, je sais pas hein, si votre iceberg porte un casque, Barthélémy. La question que je vous posais juste avant la chronique d'Abel, c'est est-ce que vous constatez un changement ou au moins une prise de conscience chez les hébergeurs d'iceberg?
Je crois qu'il y a plusieurs types de prise de conscience, ou en tout cas de personnes. C'est-à-dire que les écoles dans lesquelles je dépose le glacier, on parle d'écoles primaires plutôt, je constate que les enfants sont largement sensibilisés à ces questions-là. C'est-à-dire qu'ils ont intégré un certain nombre de principes. Mmh. Chez les adultes, il y a des convaincus. Et après... Oui, ça change. Et puis après, de manière beaucoup plus large que ça, dans le milieu artistique.
Ouais.
Ça, oui. Par contre, il y a vraiment des logiques qui commencent un peu à bouger. Et puis, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, au-delà de l'iceberg, le vélo est un récit sensible qui permet de faire changer un petit peu le point de vue sur nos façons de se déplacer en tant qu'artiste.
L'iceberg au service du vélo. Merci beaucoup, Barthélémy. Vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez retourner à vos occupations. N'oubliez pas d'aller pédaler. Une journée sans pédaler est une journée gâchée. La semaine prochaine, on va vous inviter à vous mettre dans nos trous pour prendre l'aspiration. Restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h30, tout juste. Et à la semaine prochaine. Maintenant, c'est l'heure d'un coin quelque part, épisode 63, contre la spéculation, contre la propriété patrimoniale. À la semaine prochaine.